de National. Il est 6h.
Et vous êtes là à l'heure, Fatimé Bintou Akoum, bonjour.
Bonjour Steve Tiega et Kembenge, bonjour à tous.
Et nous sommes tous sur le chemin de l'école rentrée scolaire 2024. Les élèves s'activent.
À l'approche de l'échéance du 9 septembre prochain, c'est le branle-bas au sein de la communauté éducative. Les préparatifs s'intensifient dans les collèges et lycées pour une reprise des classes de qualité. Le maillot d'Anaï coule sous le poids des inondations, des habitations englouties, des cultures détruites. À suivre dans le 6h, les dispositions prises par les autorités locales face à ces catastrophes naturelles. À l'étranger, Kenya, les inondations font aussi l'actualité dans les régions côtières. 194 personnes mortes et 100 000 déplacées. Et en sport, Coupe du monde de football U20 Dames Colombie 2024. Les Lions redescendent dans l'arène demain mardi. Elles livrent leur deuxième match contre leurs adversaires de Colombie.
Et dès ce lundi, avant les élèves, les enseignants sont sur le chemin de l'école Blaise. Alice Abegandengue, très à l'aise dans ses curiosités d'intervieweur, a réussi à nous mettre dans la tête d'un enseignant, le docteur Alexandre Thomas Isumba, notre invité actuel qui, comme beaucoup de profs et maîtresses, stresse en ce moment sur les emplois du temps. En attendant les tout neufs sacs, les nouveaux cahiers, lundi 9 septembre est jour de rentrée scolaire au Cameroun.
Et pour une reprise des classes dans de bonnes conditions, 257 établissements privés dans le sous-secteur du ministère des enseignements secondaires sont fermés. La fermeture de ces établissements privés permet à leurs promoteurs de se conformer au cahier de charges défini par le ministère des enseignements secondaires. D'autres précisions dans ce reportage de Marie-Claire Messier-Cobina.
Les écoles clandestines sont des établissements scolaires qui fonctionnent sans autorisation officielle et leur fermeture obéit à plusieurs critères. Gérald Essamangono, chef de brigade nationale de contrôle des établissements privés au ministère des enseignements secondaires.
La première catégorie, c'est les établissements clandestins qui n'ont aucune autorisation ni de création, ni d'ouverture, ni d'extension. La deuxième, c'est les établissements qui, bien que ayant eu les autorisations, se sont mis en marge du cahier de charges qui leur était donné. La troisième catégorie, on a juste constaté la fermeture qui était actée par la cessation d'activité.
Le chef de brigade précise par ailleurs que la fonctionnalité de ces écoles privées est garantie par le respect des normes.
Il y a les administrations qui sont chargées de faire exécuter cette décision-là et toute la communauté éducative. Inviter tous ceux qui sont partie prenante à l'éducation, à la vigilance.
De quoi assurer aux apprenants une éducation de qualité et sensibiliser les parents au risque des écoles clandestines.
Et pour l'enseignement privé de base, une décision du ministre de l'Éducation en date de base en date du 23 juillet 2024 porte fermeture de plus de 700 écoles clandestines recensées. À ce sujet, je vous propose d'écouter le sous-directeur des affaires administratives et pédagogiques au ministère de l'Éducation de base, Cécile Yvette Essin.
Il y a des écoles qui ont des infrastructures inadéquates. C'est-à-dire, on trouve des écoles qui sont logées dans des maisons d'habitation. On trouve des écoles dans des espaces exigus qui ne répondent pas aux normes. Pourtant, le ministre, en mars 2020, avait signé une circulaire fixant les nouveaux minima de superficie. Il faut des infrastructures adéquates, un environnement sain.
Dans l'actualité, le maillot d'Anaï débordé dans l'extrême nord, secoué par de fortes pluies.
Des habitations englouties par les eaux, des cultures détruites dans les unités administratives du département, notamment Vélé, Maga, Tiatibali. Face à ces dégâts, le préfet du maillot d'Anaï énonce un certain nombre de dispositions qui permettent d'atténuer les souffrances des sinistrés. Lazare Ndongo Ndongo, micro de Djamou Aman.
Il y a un certain nombre de dégâts qui sont causés par les eaux, que ce soit dans la ville de Yagua, que dans d'autres unités administratives. Nous avons Kalfou, nous avons Vélé, nous avons Tchatibali, nous avons Maga, qui a également enregistré beaucoup de dégâts. Pour ce qui est des principales mesures déjà prises, les tentes sont disponibles et vont être placées. Nous avons également saisi les municipalités pour qu'elles apportent aux populations qui sont menacées par les eaux un certain nombre d'appels. Puis notamment en sac, tenons des réunions avec les humanitaires pour qu'ils puissent voir dans leur plateforme quels sont les appuis qu'ils peuvent apporter. Le conseil, c'est de veiller à ce que des enfants ne puissent pas jouer dans l'eau. Nous avons pris une mesure interdisant ces baignades.
Dans la suite du journal, la bibliothèque chrétienne s'enrichit d'un nouvel ouvrage intitulé « Confession religieuse et promotion de la culture de la paix au Cameroun », une préface de l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga. Les 206 pages énoncent le rôle des confessions religieuses dans un environnement en proie aux crises sociales. Je vous propose d'écouter l'auteur du livre, par ailleurs co-modérateur à l'église presbytérienne du Cameroun, le docteur Jean-René Aoumou, au micro de Julien Gambi.
Nous proposons dans notre ouvrage des possibilités d'intervention des confessions religieuses, soit de prévenir les conflits ou les désordres sociaux que pourraient engendrer les situations, soit de régler les conflits ou d'éteindre les foyers de tension qui existent. Et dans ce sens, dans le contexte du Cameroun, des situations de conflits interethniques, des situations que subissent certaines sociétés ou certaines communautés à l'intérieur du pays, les confessions religieuses pourraient contribuer à promouvoir la paix en prenant en compte les politiques de développement et des projets qui sont promus par les pouvoirs publics.
Pluie d'une tragédie au Kenya, des inondations font de nombreux morts dans le centre du pays et des régions côtières.
194 personnes mortes selon les autorités kenyanes qui indiquent également que les fortes pluies enregistrées ont fait 100 000 déplacés, des infrastructures endommagées et des milliers d'hectares de cultures ravagées.
Ah, en sport, elles nous font sourire. Coupe du monde de football U20, Colombie 2024. Les Lions sont bien en jambes pour leur deuxième match. Demain, après leur remontada face au Mexique.
Tout à fait, Steve. Les Lions U20 vont affronter les alleux adversaires de Colombie. Hier dimanche, elles ont une séance d'entraînement à El Estadio Tabora, dans la capitale Bogota, en Colombie. Lors de la première rencontre disputée samedi dernier face au Mexique, les deux équipes avaient fait match nul, 2 buts partout. Le champion de vacances, Boukar Abdourahim, s'est refermé. La finale de la 10e édition a été réussie par une course de relais, match de football. Cette messe sportive était dirigée à Tocombéré dans le Mayo-Sava par le président de l'Assemblée nationale, Kava Yegye Dibré. Les détails avec Nicole Massai, CRTV Extrême Nord.
C'est une course de relais qui a marqué la 10e édition du championnat de vacances Boukar Abdourahim. Le canton de Madar a remporté cette course dénommée relais géant face à 6 autres cantons. Ce rassemblement sportif et du vivre ensemble a fait courir des sportifs de tous les horizons venus soutenir l'initiative. Salah Salomon, président du club d'amis d'Ahala 2 à Yaoundé.
Nous souhaitons que cela continue dans les années à venir. Le matériel scolaire qu'on va distribuer aux enfants, on n'est plus seulement dans le cadre du sport, mais dans le cadre social.
Récemment, au centre des conflits intercommunautaires, Tocombéré a vu ses fils et filles communier. Boukar Abdourahim, promoteur du championnat.
Donner de la joie à la jeunesse en cette période de vacances où elle aurait pu être tentée par des aventures ambiguës. Nous sommes là pour les aider à supporter les lourdes charges relatives à ce que l'école demande.
Le championnat de vacances Boukar Abdourahim, 10e édition remportée par Talandouel FC face à Renaissance FC au cours d'une séance de tir au but. Tocombéré, Nicole Massai, CRTV.
Mesdames, Messieurs, Steve Tchegaïkembenge, c'était le 6h.
Merci de nous avoir servi l'info à l'heure. Et c'est sûr, les journaux parleront des championnats de vacances. La presse, ça les intéresse. Nous aussi, petit aperçu des unes ce matin dans les manchettes de Julien Gambi. Bonjour.
Bonjour Steve Tchega, bonjour à tous. Présidentielle de 2025, AUOS prépare le plébiscite de son champion, c'est Roger Le Quotidien Info Matin, qui souligne qu'à cet effet, le président de la section RDPC du Lyon Infomo Nord est maire et depuis plus d'un mois dans une intense campagne d'établissement des CNI soutien aux populations. À Yaoundé, Sa Majesté Luigi Nakwa, chef supérieur du canton Akwa, chez le ministre Philippe Bagamboua, grande élite du Mfundi, tous unis derrière le président Paul Biya, titre le quotidien Réalité Plus. C'est Marc Labeyac, inonde la zone des pièces de monnaie, pointe l'hebdomadaire Diapason. Actualité toujours liée aux banques, l'irréversible chemin de la digitalisation avertit le quotidien L'Économie. Industrie brassicole, boisson du Cameroun contribue à 23,6% du chiffre d'affaires de Castel Afrique en 2023, lance le hebdomadaire Défi Actuel. Autant de une et bien d'autres nouvelles qui seront développés tout à l'heure à 6h45 minutes, Steve Chega.
Rendez-vous noté comme notre rendez-vous avec l'invité actu.
L'e-matinée de la CRTV, invité actu.
Dans l'actualité, voilà qui est une grande curiosité. Les enseignants sur le chemin de l'école, dès ce lundi, à quelques jours de la rentrée des élèves, fixée le 9 septembre prochain, on le rappelle pour ceux qui l'auraient oublié, ils travaillent sur des tableaux de service. Il faut dresser les emplois de temps et autres programmations pour l'année à venir, et ce n'est pas un petit casse-tête. Le stress de la rentrée chez les profs, nous prenons le pouls au collège bilingue Frantz Fanon, dirigé par notre invité du jour. Docteur Alexandre Thomas Isumba est le principal de cet établissement scolaire. Il est devant le tableau des défis de cette année avec Blaise Anissé Abigandengue.
Docteur Alexandre Thomas Isumba, bonjour.
Bonjour.
Les enseignants sur le chemin de l'école, à partir de ce lundi, sans tambour ni trompette, on en parle peut-être moins. Mais est-ce que les enseignants en demandent tant?
Oui, les enseignants ne sont peut-être pas les élèves, mais ils sont la pierre angulaire. C'est ce sans quoi il n'y a pas d'éducation. Nous allons les recevoir. Nous allons organiser des réunions, cela même déjà commencé. Et nous pensons qu'il faudrait rappeler les manquements de l'année dernière et les engager à plus de professionnalisme pour l'année qui va commencer.
On vous fait surtout le reproche, vos autres établissements privés, laïcs, confessionnels, d'absorber l'intérêt, la cristallisation et les attentions des anciens du public qui viennent vers vous. Il y a un problème de morale qui se pose quand même quand on sait qu'ils désertent parfois leurs enseignements de l'autre côté pour venir chez vous, comme si c'était un Eldorado.
Non, je ne pense pas qu'un problème de morale doit se poser. L'enseignant camerounais qui est formé dans une école normale, qu'elle soit de Yaoundé, peu importe là où elle est située, c'est d'abord l'État qui forme des experts, des enseignants pour former la jeunesse camerounaise. Cet enseignant peut être enseignant du lycée, il peut également être enseignant du privé. Et c'est déjà une expertise de qualité que nous convoitons.
Donc, devant ce dilemme cornélien, vous leur demandez de venir chez vous au détriment de...
Ce n'est pas au détriment. Déjà qu'un enseignant dans le public ne peut pas avoir 7 heures de cours par jour, tous les jours. Il peut le faire un jour, il peut le faire un deuxième jour, il peut le faire un troisième jour. Et les deux autres jours, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas se retourner les pouces. Il est obligé de venir nous prêter main forte et nous les accueillons avec beaucoup d'enthousiasme parce qu'ils sont formés, parce qu'ils ont une bonne expertise, parce que nous voulons tous former la jeunesse camerounaise.
À quelques heures seulement de cette pré-rentrée pour enseignants, qu'est-ce que vous percevez comme frémissement chez eux, une envie de revenir rapidement?
Oui, il y en a. Je vais peut-être trahir un secret. Tous les anciens ne sont pas rassérénés parce que nous essayons de les évaluer, nous essayons d'autopsie et de résultats officiels l'année dernière, ce qui est enseigné même dans les classes intermédiaires, à tel enseigne qu'au finish, il y en a qui nous retirons de notre confiance quand ils n'ont pas été performants.
Mais si ces derniers ressentent une résistance dans leur corps... Garde nous invite à considérer la rentrée comme un moment crucial où se décide la possibilité du bonheur. Comment un enseignant peut envisager cela dans cette perspective?
Le bonheur, celui d'exercer un noble métier. Les journalistes pensent qu'ils exercent le plus beau métier du monde. Je pense que l'enseignant exerce lui aussi, non pas le plus beau, mais le métier le plus noble. Celui qui élève la société. À travers un élève, on élève un individu, on élève la société. Je crois que c'est le bonheur d'encadrer la jeunesse, c'est le bonheur de structurer, de former toute la société, quelle qu'elle soit.
Et donc, tout à l'heure, vous leur ferez ce serment de l'esprit qui devrait dépasser la matière?
Il faudrait que l'esprit prennent le dessus sur le soma, c'est-à-dire sur la matière. Mais ne perdons pas de vue aussi que sans le corps, l'esprit n'est rien. Parce que c'est tout au moins ce corps qui entretient, ou bien c'est dans ce corps que vit l'esprit. Et en d'autres termes, je peux penser que s'il faut entretenir financièrement de la plus belle des manières possibles un enseignant avec un salaire conséquent, il ne faudrait pas hésiter. Parce que c'est un binôme, c'est un soma, c'est aussi une spiritualité.
Et tout à l'heure, comment est-ce que vous vous emploierez à encadrer ces enseignants? Qu'est-ce que vous allez leur donner comme instrumentum laboris pour la nouvelle année?
Nous avons trois préoccupations essentielles. Déjà, la première, c'est de nous assurer de ce que tous les enseignants sont là. Ça, c'est d'un. De deux, il y a les emplois de temps qui ont déjà été conçus. Il faudrait que les enseignants entrent en possession de ceci. En amont, vous avez parlé tantôt des enseignants qui sont engagés dans les lycées et collèges. Ils doivent nous présenter là des desiderata et avec les nôtres, on voit comment on peut gérer au mieux des emplois de temps qui ne créent pas de télescopage, si je peux m'exprimer ainsi, entre les emplois de temps du lycée, les emplois de temps des établissements François Fanon. Et in fine, nous imposons à nos enseignants de se soumettre à cette journée pédagogique qui commence jeudi et qui se poursuit et s'achève le vendredi, c'est-à-dire pratiquement à la veille de la grande rentrée scolaire.
Docteur Alexandre Thomas Issoumba, pédagogue et principal des collèges bilingues France Fanon, merci et très bonne rentrée.
C'est moi qui vous remercie.